Le journal Yann Ezler.
Bonsoir. Le Grand Conseil neuchâtelois vient tout juste d'accepter le plan climat avec une neutralité carbone pour 2040. Dans l'intervalle, le Parlement cantonal a apporté un coup de pouce au RHNE. Les députés ont validé un décret de 2 millions de francs afin de désengorger l'hôpital public. 14 ans de prison et une expulsion du territoire suisse. Le tribunal criminel à Neuchâtel a rendu son verdict dans le cadre du féminicide commis en avril 2021 à Peseux. Il a reconnu le prévenu coupable de meurtre. En hockey sur glace, une rencontre spéciale pour Loïc et Noah Inalbon. Les deux frères se retrouvent ce soir lors du match entre Sierre et La Chaux-de-Fonds en Swiss League. Pendant 60 minutes, ils seront adversaires avant d'être frères. Et demain, si les nuages seront présents le matin sur presque toute la région, la grisaille devrait quitter les hauteurs avec un soleil qui pourra se montrer assez généreux. Les températures resteront fraîches, de 0 à 2 degrés au maximum. Le Grand Conseil neuchâtelois vient tout juste d'accepter le plan climat, élément phare de cette session. Le programme a provoqué un clivage au sein du Parlement cantonal, mais a finalement été validé à la majorité qualifiée. Le Parlement accepte la neutralité carbone pour 2040, malgré l'opposition du PLR et de l'UDC qui souhaitaient un compromis avec comme date 2045. Et dans l'intervalle, le Parlement a accepté un crédit de 2 millions de francs pour venir en aide au réseau hospitalier neuchâtelois. Le RHNE bénéficiera de cette somme afin de désengorger une structure congestionnée par le Covid, la grippe saisonnière et l'accueil de personnes âgées en attente de placement dans un EMS. 700 000 francs sont prévus pour aménager une structure capable d'accueillir des patients en attente de placement. Et face au plénum, le gouvernement a informé qu'il ne s'agirait pas forcément de l'ancien hôpital de la Béroche, comme cela avait été parfois imaginé. Explication du Conseil d'État en charge de la santé, Laurent Courte.
Ça semble en tout cas plus cher, plus long, vraisemblablement plus compliqué que ce qu'on a imaginé au moment des fêtes. On a commencé d'examiner la situation. L'hôpital n'a pas été utilisé pendant 8 ans. Il était déjà plus aux normes au moment où il a été abandonné comme site hospitalier. Les normes ont évolué aussi. Le public qu'on y accueillerait est un public âgé. Donc un établissement sans ascenseur, ça pose évidemment des difficultés. En état de vétusté qui s'est encore aggravé pendant ces 8 ans. Et donc aujourd'hui, les montants qu'on avait imaginés pour accueillir il y a quelques mois, on l'imaginait pour l'accueil en matière d'asile. L'estimation qu'on avait faite à ce moment-là semble aujourd'hui insuffisante en ayant regardé d'un peu plus près. Et donc on cherche effectivement à comparer cette solution-là à d'autres solutions. Cette solution n'a pas encore été abandonnée, mais elle n'est pas non plus engagée aujourd'hui compte tenu des difficultés prévisibles.
Quelles sont les autres solutions ?
Des solutions pour accroître encore la collaboration avec des EMS. On a des EMS qui sont en train de se moderniser, qui pourraient libérer des lits au profit de nouveaux bâtiments, des possibilités sur les sites même, avec des infrastructures temporaires sur les sites même hospitaliers qui sont en activité aujourd'hui. Bref, on est vraiment à l'examen de toutes les solutions possibles pour continuer de désengorger le système.
Laurent Courte, conseiller d'État en charge de la santé, répondait à Adrien Juvet. Dossier complet à retrouver sur rtn.ch. On reparlera du plan climat dans nos éditions matinales. Un meurtre, un féminicide, un massacre, c'est en ces termes que le tribunal criminel à Neuchâtel a décrit les faits qui se sont déroulés en avril 2021 à Peseux. L'homme qui a tué son épouse de 23 coups de couteau a été condamné à 14 ans de prison et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Sarah Massy.
Dans son verdict, la cour a retenu que l'homme avait intentionnellement donné la mort à son épouse. Le nombre de coups portés et les endroits frappés ne laissent pas de place au doute. Les juges ne retiennent pas non plus l'humiliation dont aurait été victime le prévenu, ni le fait que sa femme l'aurait poussé à bout, et encore moins l'histoire du marabout qui lui aurait jeté un sort, et sa capacité de discernement était intacte. Les juges sont convaincus que le prévenu ment lorsqu'il dit ne pas se souvenir de ce qu'il s'est passé. Le meurtrier est passé à l'acte parce que la victime refusait de reprendre une relation conjugale avec lui. Pour la cour, la manière du prévenu de rejeter la faute sur la victime démontre qu'il n'a pas pris conscience de son acte. Elle n'a pas retenu la préméditation ni le meurtre passionnel. Elle a en revanche prononcé une expulsion du territoire suisse pour le prévenu. Les juges n'ont pas fait usage de la clause d'exception en lien avec les enfants. Avant son arrivée en Suisse, 34 jours avant le drame, le prévenu n'avait pas de contact soutenu avec eux. La cour n'a pas non plus été convaincue qu'une expulsion dans son pays le mettrait réellement en danger. Le meurtrier a aussi été condamné à verser 35 000 francs à chacun de ses enfants pour tort moral.
Les parties ont 10 jours pour annoncer le rappel. Retour à la case départ, le tribunal administratif fédéral a annulé l'adjudication des travaux préparatoires en vue du contournement du Locle. C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu public aujourd'hui. Le tribunal a admis le recours de la société qui était arrivée en deuxième position lors de l'attribution du chantier. Cette entreprise estimait que le prix proposé par le consortium choisi pour les travaux était anormalement bas et que tous les critères de l'appel d'offres n'étaient pas remplis. L'Office fédéral des routes est donc contraint de revoir sa copie. Olivier Floïc, porte-parole de l'OFRO.
On vient d'avoir effectivement cette information. Il convient effectivement de regarder quels ont été les arguments du tribunal fédéral. Très clairement, ça a pour conséquence, pour nous, évidemment, hein, je rappelle que les travaux auraient dû débuter en juin de l'année passée et que, de facto, évidemment, ils ont été stoppés net, si on veut bien. Charge à nous maintenant de voir effectivement ce que ça implique. Et puis, je rappelle que ce sont des travaux qui doivent être réalisés, des travaux préparatoires, et que ça donnera évidemment lieu à un nouvel appel d'offres de façon à pouvoir déterminer quelle serait l'entreprise, voire le consortium le mieux adapté pour pouvoir effectuer ces travaux.
Et les travaux préparatoires en vue du contournement du Locle comprennent notamment l'aménagement d'une piste et d'aires de chantier ainsi que la renaturation de ruisseaux. Une croissance solide, un niveau jamais atteint et des perspectives favorables. L'industrie horlogère suisse se frotte les mains. Les exportations horlogères helvétiques ont bouclé 2022 sur une croissance de 11,4%. À 24,8 milliards de francs, il s'agit d'un nouveau record. La branche efface ainsi la précédente marque qui datait de l'année précédente malgré un léger ralentissement en décembre. L'AFH, Fédération de l'industrie horlogère suisse, a communiqué ses chiffres aujourd'hui. Les précisions de François Comte.
L'AFH souligne que les montres suisses ont bénéficié de la forte demande pour les produits de luxe notamment. Les produits d'entrée de gamme ont toutefois aussi connu un franc succès et ont bouclé 2022 sur un résultat positif. Le contexte économique défavorable n'a ainsi que peu influencé la marge des affaires, sauf concernant la Chine en raison de la crise sanitaire. Le marché chinois a plongé de plus de 13% en 2022 et passe derrière les États-Unis qui virent en tête avec une des plus fortes progressions, plus 26,3%. Le continent asiatique affiche toutefois un résultat global positif avec plus 4,4%. Quant à l'Europe, elle a connu une hausse de 15,8%. Pour l'année en cours, l'AFH estime que 2023 devrait continuer à être synonyme de croissance. Le taux de progression devrait toutefois se montrer plus faible qu'en 2022, mais encore significatif.
On les imagine plutôt à New York en train de zigzaguer entre les voitures plutôt qu'à La Chaux-de-Fonds. Pourtant, les coursiers en vélo existent bien dans les montagnes châteloises. La métropole horlogère accueille même le mois prochain les premiers championnats du monde d'hiver de la spécialité du 10 au 12 février. Ils seront plus de 80 à prendre part aux différentes épreuves, de la classique course en ligne à des exercices plus périlleux. Jeanne Monnier est l'une des organisatrices de ces compétitions.
Il y a 3 jours d'épreuve, voilà. Donc on commence vendredi avec des Winter Challenge, comme on les a appelés. Je ne vais pas encore en dire trop sur ce programme parce qu'il n'est pas encore complètement fixe. Mais il y a le samedi, ça sera la Main Race, donc c'est cette course principale qu'il y a toujours dans ces types d'événements. C'est une course analogique du travail de coursier où en fait on a une carte avec des checkpoints et puis les participants et les participantes doivent tourner dans ce circuit fermé et transporter des choses à travers les différents checkpoints. Ce n'est pas des courses avec beaucoup de kilomètres, c'est plus des petites courses dans la ville ou alors des petits challenges, mais ce n'est pas des longues distances.
Quand on est coursier, quand on est cycliste, puis qu'on pratique d'autres courses, qu'est-ce qui change ?
Disons qu'on est très à l'aise dans la circulation quand on est coursier ou coursière parce qu'on fait ça vraiment toute la journée. Il y a certaines fois un peu des urgences où là on doit un peu aller plus vite et puis peut-être rouler un peu en dépassant vraiment plus, de manière un peu plus agressive toutes les voitures. Sinon, ça ne change pas. C'est plus une aisance dans la circulation qu'on a plus en tant que coursier parce qu'on le fait beaucoup.
Des propos recueillis par Claire Viget. Les organisateurs ont à ce jour enregistré quelques 80 inscriptions. La Confédération tire la sonnette d'alarme sur la pénurie d'organes qui persiste en Suisse. 1442 personnes restaient sur liste d'attente en fin 2022, alors que le nombre de donneurs et de receveurs d'organes est resté stable l'année dernière. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée. Une nette majorité de la Commission de l'énergie du Conseil national veut accélérer les procédures d'autorisation de construction des parcs éoliens en Suisse. Les cantons délivreront les permis de construire. Cette procédure accélérée doit encore être validée par le plénum du Parlement. De Berne, les précisions de Serge Jubin.
L'option de la Commission est claire, 18 voix contre 7 pour l'accélération de la réalisation des projets éoliens d'intérêt national bénéficiant déjà d'un plan d'affectation entré en force. Cela doit permettre de passer de 41 éoliennes en activité aujourd'hui en Suisse à environ 200 à 250. 46 projets représentant 275 machines sont en cours de procédure. Certains pourraient bénéficier de l'accélération voulue par la Commission. La procédure accélérée est toutefois temporaire. Lorsque les éoliennes produiront un térawattheure par an de plus qu'aujourd'hui, soit un peu moins de 2% de l'électricité consommée en Suisse, on reviendra au processus ordinaire. Pourquoi lancer une offensive éolienne sachant que cette énergie restera minoritaire? Parce qu'elle produit de l'électricité surtout en hiver, ce qui doit contribuer à combler les risques de pénurie. Une minorité de la Commission demande de pouvoir consulter les communes dans la procédure de permis de construire. Une autre veut réduire de moitié ou presque les cas de procédure accélérée. Le plénum du Conseil national tranchera lors de sa session de printemps, puis le Conseil des États s'emparera du dossier.
Les nominés pour les Oscars du cinéma américain sont connus. C'est la comédie Everything Everywhere All at Once qui mène la course avec 11 nominations. Elle devance le long-métrage allemand À l'Ouest, rien de nouveau et la tragicomédie irlandaise Les Banshees d'Inisherin. 9 nominations chacune. Les prestigieuses statuettes seront décernées le 12 mars à Hollywood. Et le gouvernement allemand va étudier la demande polonaise avec l'urgence requise. Réponse après la demande d'autorisation de Varsovie de livrer à l'Ukraine 14 chars Léopard de fabrication allemande.
RTN, il est 18h11.
Sport. En ski alpin, près de 50 000 personnes sont réunies à Schladming pour l'un des plus grands rendez-vous de l'hiver. Le départ de la première manche du traditionnel slalom nocturne a été donné il y a une vingtaine de minutes. C'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui mène le bal devant l'Autrichien Manuel Feller et le Neuchâtelois Valaisan Loïc Meyer qui pointe à la troisième place. Pour les autres Suisses, Reto Zeinhäusern est actuellement cinquième et Daniel Juhl huitième. Chez les dames, Michaela Schifrin signe un 83e succès sur le circuit. L'Américaine a remporté le premier géant de Kronplatz cet après-midi, devenant ainsi l'unique détentrice du record de victoire devant sa compatriote Lindsey Vonn. La Tessinoise Lara Gut-Bérami a terminé deuxième du géant à 45 centièmes, alors que Federica Brignone complète le podium. Nouvelle médaille d'argent pour Robin Kusch au championnat du monde de ski paralympique en Espagne. L'athlète de Sceaux a terminé deuxième lors du combiné alpin qui s'est tenu aujourd'hui à Espot. Il avait pourtant terminé en tête de la première manche avant de tout perdre son avance en deuxième manche lors du slalom. En basketball, Thabo Sefolosha est sur le point de faire son retour à la compétition. Le joueur de basket aurait signé un contrat avec son club de cœur, Riviera, selon SportsCenter. La confirmation devrait être faite en conférence de presse. Thabo Sefolosha est le premier joueur suisse à avoir évolué en NBA. Vevey Riviera doit affronter Union Neuchâtel samedi à 19h à Montreux en demi-finale de la SBL Cup. Enfin, c'est un match dans le match qui se tient ce soir en Swiss League de hockey sur glace. Le HC La Chaux-de-Fonds fait le déplacement en Valais pour affronter Sierre, 8e du classement. Les Abeilles auront à cœur de prolonger leur série de 10 victoires. Et les frères Inalbon auront également l'occasion de s'affronter sur une glace qu'ils connaissent très bien. Le chaudefonnier Loïc contre son frère Noah, deuxième gardien du HC Sierre. Ce dernier explique que ces matchs sont toujours particuliers pour lui.
C'est quelque chose d'assez spécial parce que depuis tout petit, on va dire que c'est pas mon idole, mais j'ai quand même un peu pris son exemple. J'ai fait du hockey parce qu'il en faisait. Après, j'ai fait gardien, c'est pas du tout pareil, mais c'est toujours quelque chose de spécial, surtout quand j'ai l'occasion de jouer. Après, des fois, s'il marque, il va vite me chambrer, mais c'est pas encore arrivé, donc ça va.
Quand votre frère est un idole et qu'ensuite ça devient un adversaire le temps d'un match, est-ce que c'est étrange, c'est dur à gérer?
Non, pas spécialement. Après, les deux, on se suit quand même pas mal. Enfin, je veux dire, moi, des fois, je regarde les retours de ses matchs. Lui également, quand je suis dans les goals. Et puis, c'est assez spécial, mais c'est rien d'impressionnant.
Des propos recueillis par notre confrère de Rhône FM, Johan Roduit, CRHCC. Une rencontre à suivre dès 19h20 sur RTN.